Mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui es venu ce matin prendre le temps d'écouter la parole de Dieu, renouveler tes forces physiques et spirituelles par le chant, la prière, rencontrer ton prochain au milieu de ton activité familiale ou de ton travail. Sois sans crainte. Le Seigneur est là. Il t'appelle, il t'invite à l'écouter et à le recevoir ici et maintenant. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en son Fils Jésus-Christ, notre frère. Bienvenue à chacun, chacune pour ce temps de culte. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le site internet et qui sont en communion avec nous. Alors c'est encore un jour de fête, ce dimanche pour notre Église, parce que nous avons la grande joie d'accueillir aujourd'hui Ermeline Polopessi. Chère famille d'Ermeline, en France comme en Indonésie, chers amis, soyez donc les bienvenus dans ce temple à l'Oratoire du Louvre, ainsi que tous les paroissiens fidèles ou les personnes de passage qui sont peut-être là pour la première fois. Pour nous accompagner musicalement, merci à Aurélien Péter qui est à l'orgue ce matin et à Samuel Zatoni Roufi qui interprétera un extrait d'une cantate de Bach. Prions ensemble. Éternel Dieu et Père, nous voici rassemblés à ton invitation. Parmi nous, il y a des autochtones, des étrangers, des croyants, des peu croyants, des fidèles, des occasionnels, des habitués et des invités. Mais tous, nous sommes des mendiants qui cherchons le pain. Nous sommes tous des enfants qui tendons la main. Nous sommes tous des guetteurs d'amour en quête de chemin. Grâce te soit rendue de nous accepter tels que nous sommes et de nous accompagner tous les jours. Amen. Alors nous nous réunissons maintenant pour chanter le premier chant du livret liturgique, ce petit livret blanc qui est inséré au début du psautier français. Il s'intitule « Bénissons Dieu, le seul sauveur » et notre tradition voulant que nous chantions debout, je vous invite à vous lever. Le Seigneur, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom, que mes mains te louent par leurs gestes, que mes pas te louent par leur chemin, que mes lèvres te bénissent à travers leurs chants, que mes yeux te célèbrent en reflétant ta lumière, que mes oreilles te répondent en écoutant ta voix. Que ma mémoire te rende grâce en rappelant tes délivrances. Que mon intelligence te loue en cherchant la voie de ta sagesse. Que ma volonté t'honore en se faisant servante de la tienne. Que mon cœur te loue en aimant de ton amour. Que ma force te loue en s'offrant à toi. que mon corps, demeure de ton esprit, te loue sans cesse. Alors je vous invite à poursuivre notre louange en prenant maintenant le psaume 103 que vous trouverez dans le recueil Le Psautier français. De ce psaume, nous chanterons les strophes 1, 4 et 6. Bénis ton Dieu, mon âme, en toutes choses. Prenez place. Hermeline, nous sommes très heureux de t'accueillir ainsi que tous les tiens pour ce moment exceptionnel de ta vie spirituelle. Dans un instant, tu vas confirmer les vœux de ton baptême en témoignant de ta foi. L'Église accueille ton initiative avec joie. Car voici la volonté de Jésus-Christ pour son Église. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Hermeline, c'est donc l'amour de Dieu qui t'a conduite jusqu'à aujourd'hui où tu vas recevoir la confirmation de l'alliance de ton baptême et où tu partageras avec nous le pain et le vin de la scène. Hermeline, que demandes-tu ?
Je demande la confirmation de mon baptême.
Avec l'Église universelle, veux-tu confesser la foi chrétienne ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
divine. Je te confirme dans l'alliance de ta terre, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme si cette parole est claire, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle.
Alors maintenant, je te cède la parole pour ton témoignage de foi. Originaire d'Indonésie, et plus précisément des îles Moluques de par mes parents. Je suis née aux Pays-Bas, mais j'ai grandi à Paris dans un foyer protestant avec des parents pratiquants. Depuis toute petite, le premier enseignement que j'ai reçu de mes parents était la prière. Aujourd'hui, elle est devenue comme un soutien ferme et solide qui m'accompagne au quotidien. Quant à mon éducation spirituelle, je n'ai pas eu de parcours classique. Jeune, j'ai fréquenté seule l'église de l'Annonciation, car mes parents ne parlaient pas le français. En parallèle, j'ai suivi par intermittence un enseignement de la Bible par la communauté chrétienne de l'ambassade d'Indonésie à Paris. À l'âge de 15 ans, je pars avec mes parents aux îles Moluques. Ils ont demandé pour moi le baptême dans une église protestante. Cette bénédiction du Seigneur, j'ai pu la partager avec eux, sur la terre de leurs aïeux et dans leur langue maternelle. Puis le temps a passé, mon éducation spirituelle s'est mise en suspens, je n'ai donc jamais communié. Mes parents me disaient souvent « on le fera plus tard ». En 2012, j'ai fait connaissance avec l'oratoire du Louvre. Je me suis sentie tout de suite à ma place et plusieurs fois, je trouvais des réponses à mes prières et à mes questionnements pendant les cultes du dimanche. C'est ainsi que j'ai commencé à cheminer dans ma foi. Les nombreux baptêmes et confirmations qui se sont déroulés dans ce temple ont été les signes propices et m'ont fait prendre conscience que c'était le bon moment pour moi. Aujourd'hui, je concrétise ce moment que j'attendais depuis longtemps, confirmer mon baptême et partager pour la première fois le repas de la Sainte Cène. J'ai choisi un passage de la Bible qui définit ce parcours de vie. Il s'agit de Deutéronome, chapitre 32, verset 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Tout au long de ma vie, j'ai toujours senti le Seigneur près de moi, aussi bien dans les moments les plus difficiles, les plus éprouvantes et les plus tristes, que dans les moments les plus beaux, les plus doux et les plus heureux de ma vie. Parfois, il m'arrivait de ne pas toujours comprendre les raisons des difficultés traversées, mais j'éprouvais à chaque fois de la gratitude lorsque ma route s'éclaircissait ou lorsque le Seigneur me témoignait sa présence par les multiplications de petits bonheurs. Mon papa, bien avant qu'il rende son dernier souffle, me chuchotait encore « Souviens-toi que quoi qu'il arrive, il n'y en a qu'un, ne l'oublie jamais. » Cette affirmation est la mienne aujourd'hui. Alors, j'invite l'Assemblée à se lever pour accueillir Hermeline. Frères et sœurs, voici Hermeline. Elle est ici chez elle et vous êtes sa famille spirituelle. Vous prierez pour elle. Vous l'associerez à l'édification de l'Église. Vous l'encouragerez dans son joyeux service. Aucune contrainte ne la retiendra dans la communauté. Et si elle venait à s'en séparer, vous affirmerez qu'elle peut toujours y retrouver sa place. Vous serez pour elle les témoins de l'amour de Dieu. Dites avec moi, que Dieu nous soit en aide.
Que Dieu nous soit en aide.
Alors, Herméline, que le Saint-Esprit affermisse ta foi, ton espérance et ton amour. Amen. Je l'ai trouvé. C'est un petit livre qu'on avait travaillé un petit peu ensemble pendant cette préparation. C'est 100 mots de la Bible pour y voir un peu plus clair sur la route de la découverte de la Bible. Et je vous invite, nous vous invitons à chanter maintenant le cantique 204, les strophes 1 et 2 de ce cantique « Seigneur, dirige et sanctifie ». Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, d'éternité en éternité. Et nous prendrons un extrait de l'évangile de Luc, au chapitre 24, à partir du verset 13 jusqu'au verset 35. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ? Alors ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'y est passé ces jours-ci. Quoi donc ? Leur dit-il. Ils lui répondirent : Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et nous, nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, voici le troisième jour que ces faits se sont passés. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversées, s'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles ont même eu la vision d'ange qui le déclare vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé tout conforme à ce que les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et lui leur dit : Esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils approchèrent du village où ils se rendaient, et lui fait mine d'aller plus loin. Ils le pressèrent en disant : Reste avec nous, car le soir vient et la journée déjà est avancée. Et il entra pour rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent, puis il leur devint invisible. Et ils se dirent l'un à l'autre : Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ? À l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunir les onze et leurs compagnons, qui leur dirent : C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. Et eux, ils racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Dans les petits recueils bleus intitulés « Louanges et prières », nous prendrons maintenant le numéro 69, dont nous chanterons les strophes 1, 9 et 10. Et pour cela, je vous invite à vous lever. Seigneur, quand nous risquons une parole, que nous puisions à ta source. Quand nous risquons une parole, qu'elle nous relie à l'unité de ceux qui te prient. Quand nous risquons une parole, qu'elle s'élève en louange comme un souffle d'espérance. Quand nous risquons une parole, qu'elle soit parole de vie. Amen. Amis, frères et sœurs, le récit que nous venons d'entendre nous plonge ou nous replonge le soir de Pâques. Deux hommes marchent sur la route, ils quittent Jérusalem, la ville de leurs espoirs déçus. Ils prennent la route d'Emmaüs, certainement pour rentrer chez eux. En chemin, ils discutent entre eux, ils s'interrogent sur ce qu'ils viennent de vivre. L'arrestation, la condamnation de leur maître Jésus de Nazareth, son agonie et sa mort avec cette question incontournable. Comment continuer? Comment rester disciple d'un homme dont l'histoire se finit aussi mal? Assez rapidement, ils sont rejoints par un autre homme. Le lecteur est tout de suite mis dans la confidence en nous précisant qu'il s'agit de Jésus, mais en disant aussi que les yeux des disciples étaient empêchés de le reconnaître. On connaît le nom l'un des hommes, Cléopas, mais l'autre reste anonyme. Et ces deux hommes nous ressemblent un peu, comme d'une certaine façon, tous les personnages de la Bible. Ils reflètent une partie de nous-mêmes, que ce soit dans nos attitudes ou nos réflexions. Et si l'un est anonyme, c'est pour nous laisser une place, la place de nous identifier. Les disciples s'interrogent et discutent avec celui qu'ils ne reconnaissent même pas, même si leurs yeux sont bien ouverts. Mais visiblement, ce n'est pas suffisant. Et si c'est Jésus ressuscité qui est là, alors la résurrection ne se voit pas à l'œil nu. Et Martin Luther, le réformateur, traduira ce passage de la Bible par « Les yeux des disciples sont retenus captifs » avec ce passif qui suggère que l'ouverture des yeux va de pair avec celle du cœur et que cela ne dépend pas de l'être humain mais du don gracieux de Dieu. Il ne faut pas aller trop vite, seulement pas à pas. Cléopas et son ami s'interrogent certainement sur la présence de Dieu dans la vie de Jésus.
Comme nous pouvons nous interroger de la présence de Dieu dans la nôtre lorsque nous traversons des épreuves, des souffrances, lorsque nous sommes confrontés à des situations où l'on peut tout perdre en un instant, comme une inondation, un incendie, un accident, ou lorsque nous sommes assaillis de doutes, d'angoisses ou par des remises en question. Et c'est sans doute cela que les disciples confient à l'inconnu, cet étranger qui marche avec eux. L'étranger, c'est d'abord celui qu'on ne reconnaît pas. Les disciples cheminaient avec Jésus sans le reconnaître, tout en ne parlant que de lui. Et ils espéraient qu'il les délivrerait. Et c'est ce qui se passe, mais pas du tout comme ils l'imaginent. Tout en lui racontant ce qui le préoccupe, il manque quelque chose aux disciples. Enfermés, emmurés dans la nuit de leur désillusion, de leur découragement, de leur déception, ils se perdent un peu dans les explications de tombeaux, d'anges et de femmes. Mais Jésus coupe court à tout ce qu'ils disent et il ne mâche pas ses mots. Ô homme sans intelligence, que vous êtes lent à comprendre et par conséquent que vous êtes lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Dans nos églises, on nous parle de Dieu, de Jésus, de la Bible, de l'histoire de la foi des hommes, et ce, sous des formes bien différentes et bien denses. Dieu, vaste sujet. D'ailleurs, c'est le thème retenu pour les journées Évangile et Liberté, pour leur rencontre annuelle à la Grande Motte en octobre prochain. De quel Dieu parlons-nous ? Quel Dieu confessons-nous ? Quel Dieu chantons-nous dans nos cantiques ? Quel Dieu célébrons-nous dans nos cultes ? Dans la foi qui est la nôtre, de quel Dieu témoignons-nous ? D'un Dieu crédible aujourd'hui ? Autrement dit, d'un Dieu acceptable à l'entendement. Nous nous disons protestants. Soit, qu'est-ce que cela veut dire ? Comme l'écrivait Raphaël Picon dans l'un de ses éditoriaux pour la revue Évangile et Liberté, protestant, c'est-à-dire héritier de cette réforme qui commit ce geste révolutionnaire de traduire la Bible dans la langue de tout le monde, nous nous devons de libérer la foi de ce qui la rend obscure, repoussante ou inaccessible, et libérer Dieu de ce qui nous le rend étranger, absurde ou impossible. Fin de citation. C'est ce que Jésus est venu faire par son enseignement. Jésus a parlé de Dieu avec ses mots à lui, avec sa parole dans laquelle il a dit et redit sous des formes multiples que Dieu est le oui magistral accordé à l'humanité et en particulier à celles et ceux qui croient qu'ils ne sont plus rien. Ce oui professé par Jésus jusqu'au don de sa vie est un oui qui nous met debout et qui croit en nous. C'est ce qui, d'une certaine manière, Jésus, sur la route d'Emmaüs, est en train d'expliquer aux disciples. Nous pourrions certainement adhérer à cette réponse qui est la base de notre engagement comme membre d'Église et de dire, comme Hermeline vient de le faire, de le dire, oui, Jésus est le Seigneur, qui rappelle la confession de foi de l'Église primitive. Nous qui peut-être avons prononcé ces mots il y a quelque temps, lors d'un baptême, lors d'une confirmation, pourrions-nous le dire encore aujourd'hui ? Et qu'est-ce que nous mettrions derrière ces mots maintenant ? Aurions-nous l'audace de confesser notre foi avec nos mots à nous ? Notre idée, notre perception de Dieu, du Dieu de Jésus-Christ, est-elle la même qu'il y a quelques années passées ? Notre savoir a changé. Notre monde a évolué. Nos données scientifiques ont considérablement augmenté. La philosophie et les sciences humaines continuent d'ouvrir de nouveaux chemins de compréhension de la Bible. Alors, confesser sa foi aujourd'hui, c'est un exercice périlleux, sans aucun doute. Et au fond, quelle que soit l'époque, c'est toujours un exercice difficile et grave. Parce que cela engage. Et certains le font encore aujourd'hui, au risque de leur vie. Maintenant, c'est le soir et les disciples s'arrêtent de marcher, ils pourraient en rester là. Mais l'inconnu fait mine de continuer sa route, et voilà que les disciples n'arrivent plus à le quitter, ils l'invitent à dîner. « Reste avec nous, le jour décline, la nuit nous menace tous. » Et lui reste avec eux, ils prennent ensemble le temps de partager un repas, et Jésus les rejoint dans l'intimité de leur vie. Il partage tout avec eux, aussi bien son savoir et ses explications que sa présence autour d'une table. Il prit du pain, prononça la bénédiction, rompit le pain et le leur donna. Et avec ce geste tout simple, leurs yeux s'ouvrent, ils reconnaissent Jésus et Jésus disparaît. Il peut partir. La rencontre a eu lieu. Elle restera gravée dans leur cœur pour toujours, mais ils ne garderont pas pour eux ce qu'ils ont reçu. Ils retourneront vers les autres partager à leur tour ce qu'ils ont reçu. Ce n'est plus seulement le savoir sur Jésus qui les fait vivre, mais c'est leur rencontre avec le ressuscité. Faites ceci en mémoire de moi. C'est le geste de communion qui leur a rappelé ce dernier geste de Jésus avant sa mort. Rien que ce geste, un geste mais des plus ordinaires, qui nous vient de ces repas que nous avons la chance de prendre tous les jours. Mais ce geste les relie au passé et les propulse dans l'avenir avec une confiance renouvelée. Et c'est tout ce que nous disons encore aujourd'hui dans ce geste de la fraction du pain et du partage du vin. C'est aussi ce que nous disons à travers d'autres gestes comme le baptême, mais aussi d'autres formes de témoignages comme la prière et l'engagement. Mais le plus significatif aujourd'hui reste encore le repas communautaire, ce que nous appelons la communion. Le partage du pain et du vin est une autre façon d'entendre l'Évangile, écrit André Gounel dans l'un de ses commentaires sur ce passage d'Évangile. Et si dans la lecture et la méditation de la Bible, la parole nous rejoint par des mots, des images ou des idées, dans le partage du pain et du vin, la parole devient nourriture pour notre foi, breuvage pour notre soif. La scène est une communion avec d'autres frères et d'autres sœurs. Elle nous rappelle que notre foi est infirme quand elle est vécue en solitaire. Fin de citation. Eh bien voilà, c'est ce geste qui manquait à la vie spirituelle d'Hermeline ces dernières années. Mais au fond, c'est aussi notre expérience de ces derniers mois, lorsque nous ne pouvions plus partager ce repas symbolique du repas de la famille de l'Église. Le temps des retrouvailles et d'encouragement, le temps de la fraternité. Et quelle que soit la signification que nous donnions à ce repas, quelle que soit notre compréhension de ces paroles, « Prenez, mangez, ceci est mon corps », la scène reste néanmoins la marque et le temps de la fraternité. Dans ce geste, nous témoignons de notre confiance passée, présente et à venir. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Amis, frères et sœurs, puissions-nous avoir chacun, chacune, notre propre auberge d'Emmaüs. Où le pain rompu et partagé sera le signe avec lequel le Christ se fait reconnaître. Puissions-nous, comme Hermeline, aujourd'hui, être de ceux qui repartent sur la route de la vie, avec ses malheurs, avec ses bonheurs, pour témoigner de notre foi. C'est dans la vie de tous les jours que nous sommes attendus. Nous ne savons pas qui aujourd'hui aura besoin de notre témoignage pour continuer la route. Nous ne savons pas non plus de quel témoignage nous aurons besoin pour continuer la nôtre. Ça marche dans les deux sens. Car le chemin d'Emmaüs, c'est tout simplement le chemin du monde et le chemin de nos vies, comme l'écrivait Bruno Chenu dans son livre écrit sur ce passage d'Évangile quelque temps avant sa mort. Il s'agit de nos existences parfois chaotiques, souvent morcelées, dans lesquelles il nous faut apprivoiser l'invisible. Emmaüs est l'apprentissage de l'invisible. Cheminer avec cette grâce invisible qui se livre à travers une parole, à travers la parole, à travers quelques signes ordinaires comme un geste d'hospitalité, un repas partagé, une discussion qui nous fait sortir de soi. Une rencontre qui nous aide à formuler notre témoignage. Tous ces instants qui marquent le retournement des disciples vers une vie nouvelle qui ne cessera de se transmettre de génération en génération et même d'une culture à une autre et d'un continent à l'autre et dont nous sommes, grâce à toi, Hermeline, en cet instant précis, les heureux bénéficiaires. Mais heureusement, rien ne reste figé. C'est dehors qu'on nous attend. Tout comme les disciples qui repartent vers Jérusalem. Car en les éloignant, Jésus les a conduits sur la route de la rencontre avec eux-mêmes. En reconnaissant Jésus au pain rompu, il disparaît à leurs yeux. Mais les disciples ne se sentent plus seuls. Ils sont habités par une présence invisible qui ne les quittera plus jamais. Et même si cela prend du temps, celui de la maturation, celui aussi de consentir à devenir témoin, ils ne seront plus jamais étrangers à eux-mêmes ni au monde. Renouvelés aujourd'hui par le témoignage et l'engagement d'Hermeline, notre tristesse est et sera changée en joie. Notre éloignement est et sera changé en communion. Et notre démission, s'il y en avait, est et sera changée en mission. Tous. Nous sommes en route pour une vie nouvelle. Amen.
Thank you.
Merci beaucoup à Aurélien et à Samuel de nous avoir conduits dans cet extrait de cette cantate de Jean-Sébastien Bach. Et nous allons poursuivre notre chant en prenant maintenant dans le recueil Louanges et prières le numéro 214, les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever. Prenez place. Alors c'est maintenant le moment des annonces, suivi du moment de l'offrande, et je passe la parole à notre présidente du conseil presbytéral, Aurore Saglio-Thébault.
Merci Agnès. Bonjour à tous. Quelques annonces. D'abord un immense merci à deux personnes qui ne sont pas là mais qui nous regardent, qui sont Bernard et Christiane Guttinger, qui nous ont merveilleusement accueillis hier à Château-Thierry. C'était un moment de partage fabuleux sur les pas de Jean de La Fontaine, et également pour nous faire découvrir un temple qui est celui de Château-Thierry. Donc si vous n'avez pas pu venir et si vous nous écoutez, Château-Thierry, c'est les portes de la Champagne. Donc cet été, n'hésitez pas à aller voir ce temple et à soutenir Bernard et Christiane Guttinger, qui sont aussi paroissiens de l'oratoire et qui sont passionnés par cette région et par l'histoire de ce temple qui est unique en France et en Europe, probablement dans le monde également, peut-être pas au Vietnam, mais qui est un temple mémorial offert par l'Église réformée américaine, qui l'a offert après la Première Guerre mondiale en mémoire aux soldats américains tués sur notre territoire. Donc vraiment, un grand merci à Christiane et Bernard Guttinger. Voilà, c'est l'été, déjà bientôt la fin du mois de juillet. Agnès va pouvoir partir se reposer et laisser sa collègue Béatrice prendre le relais. Donc tu fais encore la pause spirituelle ce jeudi à 12h30 sur Ruth, je crois. Tu m'as dit, vous continuez sur Ruth parce que c'était passionnant la semaine dernière. Donc je crois que vous faites un numéro 2, Ruth. Vous pouvez, on peut rejoindre la numéro 2 sans avoir fait la numéro 1. Bon, donc, d'accord. Agnès fera un résumé. Donc, pause spirituelle ce 12h30 avec Agnès. Dimanche prochain, Béatrice Cléromazir prend le relais et prendra aussi le relais sur les pauses spirituelles du jeudi. Voilà. Nous aimons partager et travailler en équipe. Herméline, merci infiniment de nous suivre depuis 2012. L'oratoire, en effet, c'est une longue histoire, mais d'hommes et de femmes, de serviteurs, de moissonneurs. Et aujourd'hui, nous récoltons la moisson de nos prédécesseurs et de Dieu. Vraiment, merci d'être là. Aëla, tu es là, tu vas nous aider à partager la scène tout à l'heure. Et également Samuel, que vous avez entendu, était là, à votre place, à Aëla et Herméline, il y a quelques mois, avec Béatrice Cléromazir. C'est ça, s'engager à l'oratoire aussi. Samuel a passé un coup de fil il y a quelques jours, disant « Je passe par Paris, je peux venir si vous voulez vous interpréter quelque chose ». Merci Samuel, c'est vraiment ça l'engagement à l'oratoire et le service de notre Seigneur. Nous allons partager la scène, nous allons avoir besoin de vous. Répondez à l'appel s'il vous plaît. Nous allons passer entre les rangs, vous n'allez pas bouger. Par contre, vous allez vous lever si vous voulez partager la scène et vous attendrez que nous revenions pour vous reprendre les verres. Ne les laissez pas par terre, nous reprendrons les verres en fin de partage. C'est le moment de l'offrande. Tu as parlé de joie. Donc vous savez qu'à l'oratoire, c'est le don joyeux. Pour ceux qui nous suivent sur Internet, il y a un bouton rose qui s'appelle le don joyeux. Vous pouvez donner par carte bleue. Ici également, Denis est là avec un panier digital. Et sinon, à l'ancienne, avec les diacres et les conseillers. Merci à tous et bon dimanche.
avant d'entrer dans la liturgie de Sainte-Seine, je vous propose de préparer dans la liturgie les deux répons que nous chanterons pour la Sainte-Seine. Donc, pare-toi pour une fête. Donc, on chantera la strophe 1, puis la strophe 2, lorsque je vous l'indiquerai, en fait. Merci. Louons Dieu. Notre Dieu et notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus, le Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. C'est pourquoi, avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant tant de siècles, avec ton peuple assemblé ici et partout, nous célébrons ton nom et nous te chantons et nous prenons la première strophe du cantique par nous pour cette fête. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. » Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Invité à partager son repas, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Rassemblés en Dieu, divers comme nous le sommes, nous nous unissons dans la prière. Notre Dieu, nous te prions pour les jeunes et pour les adultes qui cette année font leur entrée dans l'Église universelle. Comme Aéla dimanche dernier et Hermeline aujourd'hui, ici ou à travers le monde. Merci de nous rappeler qu'aucune dénomination ne peut prétendre délimiter l'amour de Jésus le Christ. Dans notre voyage aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés pour ce temps de culte, ce temps de louange, de prière et de méditation. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes à Emmaüs. Et si souvent, nous avons été aveugles devant les signes de ta présence, Seigneur, Et ce n'est qu'après coup que nous réalisons que cette main tendue, cette parole juste, ce geste généreux, ce pardon offert, cette communion vécue, ce sourire d'un étranger, c'était toi. Alors nous te prions pour notre lenteur à te reconnaître ou notre peur à te répondre. Notre prière, c'est aussi une manière d'accompagner les situations douloureuses et de rendre grâce pour les situations heureuses. Nous te nommons dans le profond de nos cœurs celles et ceux qui vivent un temps d'éclatement et de remise en question, un temps de deuil ou de maladie. Nous te prions pour celles et ceux qui ont demandé le secours de notre prière et que nous te nommons dans le profond de nos cœurs. Mais nous nous réjouissons avec celles et ceux qui reprennent pied et qui ont des projets pour les jours qui viennent. Nous te prions pour les personnes qui vivent leur foi autrement que nous. Nous te remettons celles et ceux qui cherchent inlassablement ta présence dans leur vie. Nous te prions pour la paix dans notre monde. Permets que nous soyons des artisans de paix là où nous sommes. Et envoie sur chacun et chacune de nous ton Esprit Saint, que nous puissions communier au corps et au sang de ton Fils, et qu'ainsi, unis à lui, nous portions la lumière, la paix et l'espérance. Que ce pain rompu et partagé convertisse notre regard et qu'il parle à notre cœur, qu'il nourrisse notre foi. C'est dans cette confiance renouvelée que nous te disons la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous prenons la deuxième strophe du cantique. Jésus, ta voix nous convie. Donc chacun reste maintenant à sa place pour partager la scène.
Le pain que nous partageons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, donné pour tous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez et mangez, prenez et buvez.
Nous demandons aux personnes qui ont communié sous les deux espèces qu'elles puissent se rasseoir. Merci. J'invite l'Assemblée à prendre les cantiques. Nous chanterons ensemble le cantique 150, « À toi la gloire », les strophes 1, 2 et 3. Merci, Dieu, notre Père, pour ce pain et pour ce vin qui nourrissent notre quête d'une vie en plénitude. Toi qui te tiens dans la pâte de nos jours et qui sais combien façonner l'humain est un artisanat délicat, apprends-nous les paroles qui vivifient, les regards qui font exister et les gestes qui redonnent confiance, afin qu'à travers nos rencontres, la promesse passe vers demain, là où tu seras tout en tous. Amen. Et recevez maintenant la bénédiction de la part du Seigneur. Mon frère, ma sœur, mon ami, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel porte sur toi son regard et te donne sa paix. Allez dans la paix de votre Seigneur. Amen. Nous chanterons un dernier cantique, le numéro 308, Confie à Dieu ta route. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 5. Et pendant ce temps, je demanderai à Hermeline de venir signer le registre des confirmations. Nous vous souhaitons un très beau dimanche et merci de laisser vos cantiques à votre place. C'est nous qui allons les ramasser tout à l'heure. À bientôt.